Je m'appelle Alexa, j'ai 51 ans, je suis parisienne et je suis féministe depuis, je sais pas, 20 ans, 25 ans, j'ai même pas compté. À vrai dire, je pense que j'ai toujours été plutôt sensible au thème des droits des femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont capables d'identifier clairement le moment où elles ont dit non. Moi, je suis absolument pas capable de le trouver. Je le cherche depuis un moment parce que c'est souvent une question qui est posée. Et je ne le trouve pas. Au départ, effectivement, comme tout le monde, moi, j'étais plutôt, en tant que féministe et en tant que femme, ouverte à me poser des questions sur ce sujet-là et sans préjugés, sans a priori de tout ça du tout. Je voulais bien étudier les possibilités parce que s'il y a une chose qui est claire pour moi, c'est qu'en féminisme, on réévalue des concepts et des idées en permanence. Ça fait partie des fondements du féminisme, de se pencher sur les choses à un niveau sociétal et en profondeur, et de façon méticuleuse.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
Je me souviens que quand la série Orange is the New Black est sortie, donc il y avait ce personnage qui était trans, qui était incarcéré, et je me disais, il est évident que c'est pas une femme comme moi, et d'ailleurs le personnage ne le cachait pas, le personnage était clairement posé comme étant une personne trans, mais je vois bien qu'effectivement c'est une question intéressante. J'avais pas d'a priori négatif en tout cas, d'autant plus qu'à ce moment-là, on n'était pas dans un phénomène encore massif. Pour moi, la bascule se fait à partir du moment où massivement, on m'explique que n'importe qui peut être une femme, à vrai dire. N'importe qui est fondé à se prononcer femme. Or là, pour moi, on a un problème sérieux parce que dans ce cas-là, le mot femme ne signifie plus rien. Et d'ailleurs, c'est désormais une définition circulaire. C'est dire une chaise et tout objet qui se définit comme tel, bah, une femme, c'est pareil. Toute personne qui se définit comme telle. Si on se met devant un enfant de, je sais pas, 4, 5 ans qui nous dit c'est quoi une femme, qui nous pose cette question comme les enfants posent des questions, et qu'on lui dit bah, une femme c'est quelqu'un qui se définit et qui ressent être une femme, on lui a pas expliqué ce qu'est une femme. Une femme peut être n'importe quoi donc à ce moment-là. Absolument n'importe quoi. Il peut y avoir n'importe quelle personne, objet, animal, matériau quel qu'il soit, substance existante finalement. Qui soit définie comme femme. Or, si on part là-dessus, le problème, c'est que les droits des femmes qui ont été construits sur la réalité matérielle d'une classe sociale sexuée, bah, disparaissent complètement. Comment peut-on construire l'égalité en droits, devoirs et opportunités des femmes si on ne peut pas identifier ce qu'est une femme de façon claire et objective? C'est pas possible. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai commencé à me dire, non, ça va pas marcher. Je veux bien être sympa. J'ai été conditionnée pour être sympa, donc je le suis. Néanmoins, il y a un moment où non, ça va pas marcher. Voilà.
Donc, si on résume, cette définition circulaire, elle te montre bah, qu'il y a une absurdité, en fait, et que finalement,
Ouais.
l'absurdité, elle est extrêmement dangereuse. Et à ce moment-là,
Ouais.
comment ça se passe pour toi? Donc, tu fais des recherches, tu commences à être
Bah,
plus.
je commence à m'intéresser un petit peu au sujet, donc je lis évidemment sur les réseaux sociaux des fils à la fois de personnes trans, mais aussi de féministes radicales. Je vais chercher des deux côtés parce que faut quand même être dans une démarche intellectuelle honnête. C'est important, je crois. On ne peut pas s'opposer à quelque chose sans savoir clairement pourquoi, comment, quels sont les arguments qui sont posés. Ce serait fainéant intellectuellement et donc je tiens à ne pas faire ça. Et donc je lis des bouquins, il y a des docs, il y a des articles, enfin, il y a toutes sortes de sources. On est à l'heure d'Internet, donc c'est pas compliqué d'aller s'informer. J'ai des échanges avec des personnes trans ou avec des féministes qui s'opposent à ça. Voilà, je cherche à effectivement à comprendre de quoi il est question. Et je me rends compte à ce moment-là que du côté des activistes qui portent l'idée d'une identité de genre, lorsqu'on pose des questions, et de façon ouverte et de bonne foi, hein, j'entends pas les questions ironiques que je pose maintenant parce que j'aime bien l'ironie. À l'époque, ce sont réellement des questions sincères et ouvertes. Je suis immédiatement rangée dans une case alternant entre l'extrême droite, la fasciste, l'eugéniste, enfin toutes sortes de choses qui, alors que je suis une femme de gauche quand même, je le dis au passage, me semblent un petit peu dingues. Le fait de questionner et d'être immédiatement rangée dans le fascisme, ou alors d'être traitée comme une petite fille, ce qui est un comportement assez masculiniste. À partir du moment où une femme ne comprend pas ou dit non, c'est qu'elle comprend pas, donc on va lui expliquer comme si elle avait 5 ans.
Oui, il suffit juste de crier un peu plus fort et ça va passer.
Voilà, et puis tu vas obéir et tu vas pas nous emmerder. Bah oui, mais non, en fait, moi je suis une adulte et j'obéirai à la loi mais à rien d'autre. Et si je veux questionner un sujet, je vais le faire de façon respectueuse, en conformité avec la loi, en respectant les droits fondamentaux et la dignité d'autrui, évidemment. Ça ne souffre aucune négociation. Néanmoins, je vais questionner. Ça a commencé à me radicaliser, entre guillemets, mais pas vraiment. Juste à me fournir des arguments en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» Je ne peux même pas poser de questions, donc.
Même poser des questions
et... Le corpus idéologique de cette croyance, puisque désormais, pour moi, c'est une croyance religieuse et pas une croyance dans le sens New Age, développement personnel des choses. C'est une foi. Voilà. Moi, ça ne marche pas pour moi.
D'ailleurs, ça m'intéresse cette question de la foi parce que je partage complètement ton avis. Hein. Je pense que ça, effectivement, c'est une croyance. Et moi, en tant que fonctionnaire enseignante, je suis par la charte de la laïcité. Et donc, je considère que ces croyances-là n'ont pas de place à l'école, ce qui pose un problème avec la circulaire Blanquer hein, qui vide cette notion d'identité de genre qui n'existe pas. Que dans l'esprit de gens qui ont bien envie, quoi. Et du coup, puisque ton travail, il est aussi un travail dans les services publics, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est quoi le lien par rapport à la laïcité? Comment est-ce qu'on devrait aborder cette question?
C'est une question vachement intéressante, ça. Parce qu'il y a évidemment la façon dont on s'adresse aux gens lorsqu'on agit pour le service public, ce qui était mon cas jusqu'à récemment, où j'ai eu l'occasion d'être en présence de personnes trans ou de recevoir des mails et d'y répondre parce que c'était ma fonction que de le faire. Et alors même que, il faut tout de même rappeler, et ça me semble important, qu'à ce jour, il n'existe pas de loi ni de jurisprudence relative au mégenrage. Ça, c'est très clair, par éducation et pour éviter toute forme de, justement, discrimination ou de manquement à mes obligations professionnelles. Moi, j'ai jamais mégenré qui que ce soit dans l'exercice de mes fonctions. Et aujourd'hui, je me questionne, est-ce que j'aurais dû ouvrir cette conversation? Je ne sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Je suis d'accord sur le fait que on a tout de même un problème de cohérence entre le principe de laïcité du service public qui doit s'attacher aux faits objectifs et non à la foi, quelle que soit la nature de la foi, et le fait obligé, dans le contexte social et sociétal, de considérer qu'une femme trans est une femme, qu'un homme trans est un homme, et que l'habit fait le moine, et qu'on ne doit pas discuter ça. Dans le service public, à vrai dire, on doit pouvoir tout discuter, en s'attachant à l'application de la loi. Donc les droits d'autrui sont absolument pas négociables. Néanmoins, est-ce que le service public doit répondre à une fiction? C'est tout de même une question. Alors évidemment, là-dedans, il y a la question du changement d'état civil. Et tout le problème, finalement, vient sur le terrain de la féminité ou de la masculinité qui peuvent, dans le cas d'espèce, entrer en contradiction totale avec le masculin et le féminin. Donc là, c'est une grande question. Moi, j'ai pas de réponse, mais effectivement, c'est une question de laïcité aussi.
Ce qui est compliqué, c'est que c'est un problème qui est multiple. Il y a le fait de faire semblant de croire quelque chose en quoi on ne croit pas, et donc quelque part d'être obligé de mentir, ce qui, moi, me pose problème. Le deuxième problème, c'est aussi la question, évidemment, de ne pas blesser les personnes. On est bien d'accord, hein, évidemment.
Bien sûr.
On est joué tout pour ne pas blesser les élèves, évidemment. Et puis,
d'autant plus que ce n'est pas une question personnelle.
Et puis, le troisième point, c'est aussi la question de l'exemplarité, puisque si un prof fait semblant de croire à ça, ça valide. Donc, c'est bien cette question de la laïcité. Et alors, il y a même encore pire, il y a le prof qui lui-même peut être trans. Il y en a, hein. et quel message
Bien
tu peux
sûr.
passer aux élèves. Est-ce que les élèves vont être obligés de l'appeler par ses prénoms fantaisistes ou simplement se faire confiance? Surtout quand on a des adolescents et des adolescentes en face de nous, on doit leur apprendre à se faire confiance.
Par exemple, j'ai vu plusieurs publications à ce sujet où aux États-Unis, dans des États démocrates, il y a des enseignants qui exigent des enfants qu'ils leur donnent des pronoms ou des appellations qui sont entre guillemets non binaires. Ce qui, bon, on pourra parler aussi de la non-binarité, c'est quand même une vaste escroquerie. Et lorsque ces enfants ou ces adolescents refusent, ils se retrouvent au fond de la classe, quoi, dans une situation où l'enseignant les méprise très ouvertement. Et les sanctionne pas parce qu'ils n'ont pas de fait objectif pour le faire, mais les relègue et les ostracise, très clairement. Donc ça, c'est tout de même un problème. Et par ailleurs, sur le sujet de l'enseignement, sauf à avoir réellement rien compris au pays dans lequel je vis, c'est tout à fait une possibilité, hein, moi je veux bien admettre tout ce qu'on veut, l'enseignement républicain s'attache à transmettre les faits et l'esprit critique, normalement. C'est ça, l'enseignement républicain français. C'est l'apprentissage à partir d'un stock de connaissances, d'être capable de prendre de la distance pour pouvoir les analyser de façon critique. C'est ce qui a fait pendant très longtemps la qualité de l'enseignement français. Là, on est dans un truc qui vient mettre une pierre dans ce jardin, et je trouve ça extrêmement grave, à vrai dire. Extrêmement grave. Et pas au motif qu'il faudrait former des élites, au contraire, au motif de l'éducation populaire, de l'accession sociale, et de la capacité pour un gamin qui vient de milieu populaire, où tout le monde ne parle pas français à la maison, voire on ne parle pas du tout français à la maison, enfin, où il y a des circonstances sociales qui sont compliquées, de pouvoir s'élever grâce à l'instruction. L'instruction, elle ne peut pas se faire sur la base de la foi, dans ce cas-là. Parce que sinon, on entrave la possibilité pour ce gamin ou cette gamine de se construire une vie de progrès social, notamment au sein de la société. Donc je pense que c'est un réel problème, ça.
C'est très intéressant cette conversation qu'on a là parce que il y a encore un an, quand j'enregistrais des épisodes des témoignages de rebelles du genre, je disais, bon, c'est vrai que ce qui se passe notamment dans les pays anglo-saxons, c'est très inquiétant parce qu'effectivement, il y a des femmes qui perdent leur emploi, il y a par exemple, des enseignantes qui sont comme Kathleen Stock, par exemple, qui a témoigné dans le
Ouais.
podcast, qui sont harcelées, etc. Des infirmières qui perdent l'exercice au Canada et récemment une sexologue aussi. Et je me disais, à nous, on a encore quand même cette liberté-là et quand même la laïcité, je pensais, nous protégeait quand même et nous protège peut-être encore.
Moi, je viens d'être licenciée pour avoir affirmé qu'on ne change pas de sexe, tout simplement. Qu'on peut changer d'état civil, qu'on peut adopter des codes esthétiques, qu'on peut se présenter de la façon qu'on souhaite, mais que personne ne change de sexe parce que la biologie humaine est ce qu'elle est et que le sexe est immuable. Moi, j'y peux rien, personne n'y peut rien. Je veux dire, j'ai pas fabriqué ça, hein. J'ai pas ce genre de pouvoir, malheureusement ou heureusement. Bon. Je pensais qu'on était dans un pays, effectivement, où l'esprit critique pouvait s'exercer, y compris de façon frontale. Et là, je me pose la question. C'est tout de même quelque chose d'un petit peu inquiétant.
Est-ce que tu peux raconter ton histoire?
Donc, il y a encore un mois, puisqu'on est le 18 août, j'étais directrice de cabinet dans une mairie de banlieue parisienne. C'était une fonction que j'avais absolument pas l'intention de quitter, très clairement. Et j'ai, sur un tweet d'une personne qui annonçait son changement d'état civil, retweeté en disant que, littéralement et factuellement, que cette personne n'avait jamais été, n'était pas et ne serait jamais de sexe féminin. Ce qui est un fait, que elle pouvait adopter des codes esthétiques genrés et patriarcaux, en tout cas selon ma lecture des choses patriarcaux, mais que changer de sexe, c'était pas possible, tout simplement. Ce qui est factuellement vrai, il faudrait juste, enfin, le dire, c'est non seulement factuellement vrai, mais c'est parfaitement conforme à la loi, parce que je n'ai pas nié l'identité de genre de cette personne. J'ai dit que le sexe était immuable. C'est pas la même chose. Je n'ai pas nié son droit à faire modifier son état civil. Elle l'a fait, très bien, elle l'a fait. Je me contente de poser un fait en face. C'est tout. Et il y a un pseudo-activiste qui s'est visiblement menti chez moi et qui a exigé, entre guillemets, je cite, mon recadrage, ce qui a donné lieu derrière, bah, en bout de ligne, à mon licenciement. En 3 jours, 4 jours peut-être.
Tu peux expliquer ce que tu faisais comme fonction?
Directrice de cabinet, c'est un peu le bureau de la gestion des emmerdements dans une mairie. En gros, c'est la tour de contrôle. Voilà, on gère les emmerdements. On gère toutes les demandes qui arrivent pour l'élu, les sujets prioritaires, les sujets structurels. On participe absolument à toutes les réunions. On suit l'élu dans tous ses déplacements, toutes ses apparitions publiques. C'est le bureau de la gestion des emmerdements, en synthèse. Quand on le fait comme moi, je souhaitais le faire, en tout cas, c'est-à-dire que de façon globale, quand je prends un engagement, je prends un engagement, hein, je ne mégote pas là-dessus. C'est 70 heures de boulot par semaine. C'est 6 jours sur 7 en tarif syndical, avec des journées de 12 à 15 heures. Donc c'est, alors c'est pas mal rémunéré du tout, hein, c'est à mon avis assez équitable d'ailleurs que ce soit correctement. Néanmoins, c'est un job qui est extrêmement épuisant, c'est-à-dire que j'y ai laissé ma vie sociale, ma vie familiale, j'ai plus d'amis autour de moi ou très peu, bon là ça revient, mais c'est 1 an et demi durant lesquels ma vie a été intégralement absorbée par ce job, ce que j'avais l'intention de continuer à faire parce que moi quand j'ai pris ce job, je l'ai pris en me disant l'extrême droite est vraiment à nos portes et il faut qu'on aille mettre les mains dans le cambouis à chaque fois que c'est possible. Et donc démontrer l'action de la gauche et être là pour les gens. Et être là pour la collectivité, la société et l'intérêt général. C'est pour ça que j'ai pris ces fonctions. Je le regrette absolument pas parce que je m'y sentais utile. C'était un job que je connaissais pas, donc au début ça a été un peu chaotique, ça n'a pas été facile. D'autant plus que je venais du privé, donc le vocabulaire du service public, c'est tout de même quelque chose. C'est une langue à part qui est faite d'acronymes majoritairement. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps pour arriver à me glisser dans le costume et habiter mon fauteuil. Mais une fois que j'y suis arrivée, ça tournait, je crois, plutôt pas mal. En tout cas, l'élu pour laquelle je travaillais ne m'a pas dit qu'elle envisageait de se passer de mes services avant que cette aventure ait lieu.
Jusqu'à ce qu'on lui en donne l'ordre, en fait. Jusqu'à ce que les transactivistes...
Jusqu'à ce qu'on lui mette une pression qui est... Le pire, je crois, c'est que la pression était légère, mais le risque de pression majeure était là et je pense que c'est ça qui s'est produit. C'est-à-dire que faut pas oublier que dans quelques mois, il y a une élection municipale et qu'un truc comme ça, ce que ce petit activiste, enfin qui se prend en tout cas pour un activiste, je sais pas moi ce qu'il a dit, sait. C'est-à-dire que là, c'est pas le moment d'avoir un sujet un petit peu difficile et controversé. Donc, il a choisi son moment parce que moi, sur Twitter notamment, et même sur Facebook d'ailleurs, ça fait des années que je développe des arguments critiques du genre. Des années. Je ne m'en suis jamais cachée. J'assume, je le fais sous mon nom, sans me planquer de rien du tout. Je porte un discours et on a le droit de pas être d'accord avec moi, j'entends bien, mais en tout cas, je me cache pas. Je me suis jamais cachée. J'ai des tas d'amis qui sont sous pseudo, etc. Et ils ont des raisons et ils font bien ce qu'ils veulent. Moi, je suis un petit peu... réfractaire au pseudonymat. Je pense qu'à un moment donné, dans la société dans laquelle on vit, il faut porter ses convictions clairement et sous nos noms propres et sous nos identités propres. Effectivement, parfois c'est risqué, je peux pas dire le contraire, je l'expérimente. Néanmoins, ce sont des sujets importants. Moi j'y vais honnêtement, quoi. Je suis honnête dans mes positions. Donc voilà, mais dans le cadre d'une élection qui arrive avec un contexte politique qui est compliqué, ben voilà, ça donne lieu à l'ostracisation. De qui, justement, ne se cache pas et entend poser un sujet sur la table. Et sans me prendre pour ce que je suis pas, je veux dire, je comprends parfaitement que mon discours puisse sembler très prétentieux et qu'on se dise que je veux exister. C'est pas une question de moi, on est 8 milliards sur cette planète, la moitié sont des êtres humains de sexe féminin. Moi, je veux dire, personne se souviendra de moi après ma mort et c'est très bien comme ça, je m'en fous. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de porter cette question-là. Qu'est-ce qu'une femme? Ça, c'est important. Et j'ai pas envie de me cacher, et je pense que le fait qu'on doive se cacher est très grave, justement. C'est pour ça aussi que je me cache pas. C'est tout de même assez grave de pas pouvoir porter une opinion qui ne nuit à aucun droit fondamental, de façon honnête et à découvert. Qu'est-ce que ça dit de nous, collectivement? Ça, c'est une question que je pose aussi.
Bah, ce que ça dit, je pense, c'est surtout que les droits... Bah, évidemment supplémentaires, grattés sur les droits des femmes, par les hommes ont beaucoup plus d'importance que les droits fondamentaux des femmes, comme le droit au travail, le droit à s'exprimer, ou les convictions qu'on peut avoir, ou le droit de se défendre, de défendre les femmes. Voilà.
Oui.
Ça, un petit droit supplémentaire de pouvoir aller exhiber un certificat de naissance falsifié, tout ça avec un coût énorme pour les femmes. Et finalement, puisque ce
sont uniquement pour les femmes et pour les enfants aussi. Parce qu'il y a la question des mômes là-dedans. C'est pas anodin. On médicamente des gamins qui sont en parfaite santé. Je veux dire, pardon, mais il y a un problème, il y a un scandale sanitaire qui va nous péter au nez, comme il a pété au nez des Britanniques, comme il va péter au nez des Canadiens, comme il va péter au nez des Australiens. Pourquoi la Suède a fait marche arrière en ramenant un cadre beaucoup plus prudent ? Il faut se poser ce genre de questions tout de même. Parce que la Suède, depuis bien longtemps, avait embrayé sur les cadres thérapeutiques de transition et était très avancée là-dessus. Ils ont fait une marche arrière complète. Ils ne traitent plus les mineurs, alors qu'ils le faisaient largement. Pourquoi ? Il y a tout de même ça. Et puis sur la question des petits droits grappillés, moi je suis pas d'accord pour dire que ce sont des petits droits grappillés. Les droits des personnes trans doivent être acquis. Moi j'ai pas de problème à ce que les gens acquièrent des droits fondamentaux. Au contraire, je suis une femme de gauche.
Oui, mais lesquels n'ont-ils pas ?
Les droits fondamentaux, c'est pas un problème pour moi. Ce qui est un problème pour moi, c'est que les droits des personnes trans soient acquis au détriment des droits fondamentaux des femmes. Ça me pose un problème. Et lorsqu'on dit, mais il y a aucun sujet pour nous, si vous voulez, avoir des catégories sportives non binaires ou trans ou mixtes ou comme vous voulez les appeler, peu importe, des vestiaires, des espaces, très bien, parce qu'effectivement vous devez être en sécurité. Il y a des gens qui vous veulent pas de bien physiquement. Et que, en tant que féministe, moi, j'ai pas vocation à admettre que qui que ce soit en danger. C'est tout. Donc, l'acquisition de droits pour les personnes trans n'est pas un sujet de débat. Oui, bien entendu, les personnes trans doivent acquérir des droits. Et c'est très bien comme ça. Néanmoins, il y a deux questions. D'abord, quels sont les droits aujourd'hui en France, puisque nous sommes en France, dont ne disposent pas les personnes trans ? J'ai toujours pas trouvé. Et à chaque fois que je pose la question, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Deux, pourquoi est-ce que ce serait au détriment des droits des femmes ?
Oui, d'autant que quand on dit les personnes trans doivent être à l'abri de la violence, soyons précises, hein, de la violence des hommes.
On nous dit aussi que les personnes trans sont victimes de plus de féminicides, que je mets entre guillemets évidemment, que les femmes qu'ils appellent cisgenres. Entre parenthèses, je m'oppose à cisgenres, je ne suis pas une sous-catégorie, je suis une femme, point. C'est tout. Et donc, on nous dirait qu'en fait, la population transgenre est la plus discriminée. Mais pardon, si je ne m'abuse et qu'on me corrige, vraiment, moi, j'accepte toujours d'admettre que je me suis trompée sur un fait précis. Il y a eu ces 5 dernières années, je crois, 2 personnes trans qui ont été assassinées par des hommes dans des contextes prostitutionnels. Et peut-être une troisième, je crois, qui a été assassinée par son conjoint, effectivement, mais toujours dans un cadre prostitutionnel. Ça, c'est pas des féminicides. Enfin, je veux dire, pardon, mais il faut arrêter de mettre n'importe quoi au motif que ça nous arrange dans les mots. Les femmes sont assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint au maximum tous les 3 jours en France. Ça, c'est factuel.
C'est très vrai, mais par contre, cette question, ce lien avec la prostitution, c'est pareil, c'est un gros secret.
Oui, et puis qu'on parle aussi du système prostitutionnel, parce que les mêmes qui nous expliquent que n'importe qui peut être une femme, nous expliquent aussi qu'il est parfaitement légitime qu'une femme vende son cul pour bouffer. Donc le corps des femmes est appropriable, vendable, à loisir.
C'est tout à fait des idées de gauche, hein, on est bien d'accord.
C'est clairement des idées de gauche, mais c'est moi qui suis fasciste.
Voilà, on est bien d'accord.
Et ce sont eux les anticapitalistes.
Évidemment.
Naturellement.
Du coup, tu as été licenciée comme ça, du jour au lendemain ?
Oui, alors le statut des collaborateurs de cabinet est un statut dérogatoire. Donc on peut parfaitement, effectivement, licencier quelqu'un extrêmement rapidement, extrêmement facilement. Pour le coup, je savais, c'est un siège éjectable, tout simplement. Hein.
Donc en fait, ces activistes des droits des personnes trans n'ont pas hésité à exiger, comme ils l'ont exigé pour moi d'ailleurs, le licenciement d'une...
Les mots qui ont été prononcés officiellement, en tout cas qui ont été écrits officiellement, c'est recadrage. Voilà, en bout de ligne, j'ai été licenciée. Et derrière, la personne qui a lancé ce mot de recadrage en taguant l'élu pour laquelle je travaillais, son parti, un certain nombre d'organisations, etc., s'en est félicité et a dit et a écrit de façon très claire être fière de mon licenciement.
On est d'accord que c'est quelqu'un qui milite dans une association de transactivistes. Donc, effectivement, bon, bah, c'est cohérent avec leur posture habituelle. Hein, donc,
Et on a essayé de m'expliquer que c'était... des gens qui étaient antiféministes, c'est un petit peu facile. Non, ce sont des transactivistes misogynes, c'est simple.
Bah c'est un peu la même chose, non?
Oui, c'est la même chose, mais moi j'ai l'impression tout de même que lorsqu'on dit antiféministe, on inverse un petit peu la charge des choses.
Ah oui, d'accord, comme le masculiniste, on peut dire, à ce moment-là.
C'est ça, ce sont des transactivistes masculinistes misogynes.
Très bien.
En tout cas, c'est mon opinion, qu'ils me poursuivent s'ils veulent, hein, on verra.
Oui, ça m'étonnerait qu'ils puissent prouver.
Enfin, si j'avais pu être poursuivie pour ce que j'ai dit, ça serait déjà fait.
Tout à fait, puisque effectivement, en France, on a encore le droit de ne pas croire qu'on
Et
veut.
je n'ai rien dit d'illégal, ni qui nie les droits fondamentaux d'autrui.
Tout ça, c'est très inquiétant, et ça a été permis quand même par le fait que tu avais quand même professionnellement un statut très précaire. Parce que ce qu'on
Bien
entend
sûr.
là, c'est vraiment très, très inquiétant. Il y a énormément de femmes que je rencontre, moi, dans le cadre de mon podcast ou dans mes activités militantes, qui ont très peur de parler parce que, effectivement, les conséquences pour elles, sur le plan économique et donc sur leur vie, elles sont directes.
En pragmatique, je veux dire, j'ai une fille qui fait des études, qui
c'est
vit
ça.
Avec moi. Voilà, je ne suis pas riche. J'ai pas un rond de côté en dehors de ce que j'ai mis de côté cette dernière année et demie pour financer les études de ma fille. Et ça va pas chercher bien loin, quoi. Donc
Ouais.
voilà, maintenant je cherche un job et puis voilà, c'est tout. J'espère en trouver un rapidement, mais pour le moment je suis en vacances puisque j'avais le droit à des congés payés, donc je les prends.
Bah oui, c'est un peu la moindre des choses quand même.
C'est voilà, ça s'appelle un droit.
Est-ce que tu peux développer un peu ton analyse sur cet événement?
Mon analyse sur cet événement, c'est l'injonction au silence et l'acceptation d'une foi. Vraiment, moi, je rattache ça à la foi, qui devrait nous intimer l'ordre du silence. Et après, sur le sujet, plus particulièrement de la transidentité, finalement, moi, il y a trois points tout de même qui me semblent importants ou notables. Le premier, c'est que nous sommes souvent accusés de nier l'existence des personnes trans. Moi, j'ai jamais nié l'existence de qui que ce soit. Enfin, ça serait complètement irréaliste. Je vois bien que les gens existent, merci. J'ai une conscience normale d'être humain normal. Donc, quand quelqu'un existe, je m'en rends bien compte. C'est clair. En revanche, lorsque on vide le mot femme de sa substance et qu'on prétend que n'importe qui est fondé à s'affirmer femme, qui nie-t-on? Quelle existence nie-t-on quand on fait ça? Il y a une inversion des choses que je trouve fascinante. Et on achète ça avec le sourire. Moi, je suis pas d'accord pour acheter ça avec le sourire, tout simplement. Voilà. Et je pense que c'est mon droit. Le deuxième point, c'est que les transactivistes seraient les féministes radicaux réels. C'est tout de même assez ironique. Parce que...
LOL.
Ça, c'est, le niveau d'ironie là, j'adore, franchement c'est formidable, parce que si ce sont eux qui luttent activement et réellement contre le patriarcat, il va falloir m'expliquer la cohérence qu'il y a entre ça et le fait de prétendre que l'habit fait le moine, tout simplement. Moi je m'attache à l'être, je m'attache pas à ses vêtements, à sa coupe de cheveux, à sa manucure, à ses chaussures, du tout. Ou à une paire de seins en silicone ou fabriquée sur hormones. Je m'attache à l'être au fond. Et donc, lutter contre le patriarcat, c'est vouloir éliminer les entraves à être, justement, et à être normalement tel qu'on est depuis nos naissances dans la société, en bénéficiant de droits et opportunités équitables.
C'est le principe du féminisme, en fait.
Voilà. Donc ça, c'est les féministes qui s'en occupent tout de même. C'est tout de même grâce aux féministes qui ont bâti tout un corpus de droits fondés sur la matérialité de l'existence des femmes à qui on doit notre droit de vote, notre droit de propriété, notre droit de travailler, notre droit de divorce, notre droit de mariage, notre droit d'IVG ou de refuser un IVG, notre accès à la contraception. Tout ce que aujourd'hui nous avons et dont nous avons la chance de bénéficier, qui ont été conquis par nos grands-mères et nos arrière-grands-mères et nos mères, tout d'un coup serait remis en question au motif que la vraie lutte contre le patriarcat, ce serait que l'habit fait le moine. J'ai reçu un email long comme le bras d'une personne qui fut un homme et qui désormais affirme être une femme, que j'ai connue il y a très longtemps, donc j'ignorais sa transition, très bien, ça m'est annoncé, qui m'écrit un très long email qui en synthèse est moi,
Moi et ma bite.
de femme, et tu comprends, toutes mes amies sont formidables, et ma femme est formidable, et tout est formidable, et tout le monde se plie à cette fiction juridique.
À mes désirs. C'est
Absolument, hein.
de ça qu'on parle en
Oui.
fait,
Et
hein.
il prétend qu'elles sont ravies, hein. Voilà, l'argument, c'est qu'elles sont ravies. Et qui termine par un paragraphe qui est de toute beauté, dans lequel il m'explique quel genre de féministe je devrais être. C'est d'une condescendance et d'un paternalisme absolument fabuleux. J'ai passé 48 heures à me demander si j'allais l'éclater, et puis évidemment, je le fais pas, parce que je suis bien élevée, et je fais pas ce genre de choses. Néanmoins, je dois dire que là, je me demande si je réponds ou si je réponds pas, parce que ça ne mérite pas mon temps. Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé.
Tu sais que je te trouve
Je sais
beaucoup plus gentille que moi parce que moi, ce genre de personnes, je les affiche et je mets leur nom. Comme ça, je règle la
pas. Ouais,
question.
moi je ne le fais pas parce que voilà, enfin, on a toutes nos façons d'agir, etc. Moi, j'ai vraiment à cœur de rester, non pas justement sur les individus, mais sur l'intérêt général et le sujet. Je suis assez catastrophée justement par l'individualisme qu'on a adopté comme un seul homme dans les sociétés occidentales, qui fait que c'est le droit individuel qui compte. Mais on va bousiller tout ce qu'on a construit à ce jeu-là. Et je suis désolée, mais l'individualisme et le ressenti individuel, c'est pas une notion de gauche. La gauche travaille à l'intérêt général, à l'annihilation des classes sociales, de façon à ce qu'on puisse former un ensemble. C'est ça, la gauche. En synthèse, c'est pas le ressenti individuel. Donc c'est pour ça aussi que non, je nomme pas les gens et non, je les affiche pas individuellement. À part, alors sur Twitter, je peux retweeter un truc, mais sur des comptes qui sont ouverts en public. Donc les gens, pour moi, ont consenti à ce qu'on commente ou on apprécie les choses.
Mais malgré tout, enfin, je pense que nos deux positions se tiennent, hein. Moi, en ce qui me concerne, une personne qui cherche à me nuire activement ou qui m'explique la vie et qui me pourrit la vie et qui me dévore mon énergie, etc., eh ben, je l'affiche.
Mais je comprends parfaitement cette position. Moi, j'évalue si ça mérite un traitement par le mépris.
C'est quand
Voilà.
même quelqu'un qui, moi, par exemple, si j'avais eu le nom de la personne qui a écrit cette lettre anonyme à mon proviseur, ben, je l'aurais affiché
Bah
bien
oui. Non, puis en plus, la
sûr.
lettre anonyme, c'est malodorant, la lettre anonyme, pardon.
C'est vrai, ça pue.
C'est malodorant. On sait ce que c'est, la lettre anonyme. C'est absolument inimaginable.
Est-ce que tu veux développer maintenant, peut-être.
Il y a une troisième idée, parce que j'avais dit
Oui,
trois, donc
alors
il y
vas-y, trois
en a
idées.
une troisième. C'est que on prétend que les féministes radicales comme nous sont des gens qui veulent empêcher, qui veulent censurer, qui sont en fait résolus à faire du mal à autrui. Sauf que d'une part, c'est nous qui sommes censurés, licenciés, emprisonnés pour Betty Lajgar, par exemple, hein. Rappelez qu'il y a une femme qui est actuellement détenue au Maroc pour avoir affirmé et exercé sa liberté d'expression. Je pense que c'est important. Enfin, à l'heure où on enregistre, en tout cas, et au jour où on enregistre, j'espère que ça durera pas, mais au jour où on enregistre, il y a une femme qui est en prison au Maroc pour avoir exercé sa liberté d'expression.
Et on se bat comme des forcenés pour en parler.
Ouais.
Donc
Et
merci
voilà.
Barbara.
Et il y a aussi une autre femme qui, actuellement, est réfugiée politique en Europe parce qu'elle risque 25 ans d'emprisonnement pour avoir affirmé qu'un homme n'est pas une femme. C'est une Brésilienne. C'est la première réfugiée politique à ce titre. C'est quand même très grave. C'est pour ça que je relativise un petit peu la perte de mon emploi, si tu veux, parce que il se passe des choses extrêmement graves, tout de même. Faudrait qu'on le dise. Alors que, par ailleurs, sur le fond, aucune de nous n'a jamais souhaité la mort, la maltraitance ou la diminution des droits des personnes trans. Nous, on demande l'ouverture d'une conversation qui nous permette de trouver un consensus. Et notre base de conversation, c'est les droits des personnes trans ne peuvent pas être acquis au détriment des droits des femmes. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez et comment on trouve une solution? Non, c'est ça qu'on dit quand même. Faudrait pas l'oublier non plus. Donc, lorsque on nous dit que nous sommes fascistes, est-ce que le fascisme recherche jamais un consensus dans l'histoire humaine et dans l'histoire du fascisme? Et à un moment donné, il faut revenir à des notions simples, hein. Moi, j'ai pas vu ça nulle part. Alors, certes, je suis pas historienne, hein, je prétends pas ça. Mais tout de même, il ne me semble pas que le fascisme recherche un consensus. Moi, je suis toute prête à ouvrir une discussion de consensus. Ça ne sera pas au détriment des droits des femmes. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose pour les personnes qui nous écoutent?
Ben, écoute, non, je crois que j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses là. Donc, non, ça couvre à peu près les choses là. À moins que tu penses à une question que tu voudrais poser, bien entendu.
Non, moi je te remercie du fond du cœur pour ton engagement, pour la clarté de tes explications, pour ton humanité aussi, parce que effectivement, on voit bien que tu illustres parfaitement qui nous sommes, nous, les féministes, tellement ostracisées, qu'on nous traite de fascistes ou de nazis ou de tout ce qu'on veut. Tu en payes un prix très lourd, je trouve. Donc moi, je souhaite vraiment que ta situation, elle s'arrange rapidement quand même, hein,
Bah, moi
professionnellement.
aussi, oui, bien sûr,
Parce
mais
que
enfin,
c'est quand
je dis,
même...
je relativise parce qu'il y a des femmes qui sont en prison et qui sont menacées
Non,
de
non, mais
mort.
c'est pas parce qu'il y a la peste quelque part qu'on va pas soigner la grippe chez nous. Enfin, je veux dire,
J'entends bien,
c'est pas une
j'entends
raison,
bien.
tu vois.
Ma grippe, elle se soignera, quoi.
On l'espère toutes. En tout cas, on t'envoie beaucoup de soutien, beaucoup de sororité.
Je te
Merci beaucoup,
remercie.
Alexa.
Merci beaucoup, à toi aussi.
Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.